Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être au rendez-vous du Café des Sports de Radio Foot International sur RFI, bien entendu, notre émission hebdomadaire le vendredi qui referme une semaine d'actualité sur la planète football avec nos vedettes, ceux qui forment un duo depuis tant de vendredis et tant d'années désormais, Rémi Ngono et Xavier Barré. Bonjour messieurs.
Bonjour Annie,
on est même côte à côte aujourd'hui.
C'est pas ça possible, de toutes les façons.
On va faire attention de ne pas avoir des gestes équivoques, hein, Rémi. Des proverbes, ça suffit.
Ne vous en faites pas. Si les cherchent à me faire un tacle par derrière, moi je connais faire la clé 14, c'est-à-dire directement au cou.
Bon. Attention, donc Xavier, vous êtes prévenu. Il y a aussi Franck Simon, plus calme en face pour arbitrer ces débats. Bonjour Franck.
Bonjour Annie, bonjour à tous. Désolé d'interrompre votre vie de couple, hein, les amis. Hein.
Justement, on vous a invité pour ça. Et puis Olivier, bien sûr, qui jouera les troubles faites, j'en suis sûr.
J'ai vu de la lumière, on m'a invité, je suis là, bonjour à tous.
Évidemment, c'est chez vous ici. Alors, au cœur des débats du jour, de bien belles rencontres en perspective en Europe dans les divers championnats. En Angleterre d'abord, ce Manchester City Arsenal où Citizens et Gunners essaieront de réduire le fossé qui les sépare déjà des Blues de Chelsea. En Italie, les Romains de la Louve pourraient bien profiter de leur face-à-face avec les Turinois pour contester la suprématie de la Juve. Tandis qu'en France, Monaco et Lyon s'affronteront avec au second plan la bataille encore ouverte au Monégasque, buteur en série pour le titre de champion d'automne. La suspension du championnat congolais, 28 clubs en vacances forcées, alors que la décision du ministre des Sports semble plus dictée par le contexte politique autour de la fin du mandat de Kabila que par la violence qui, il est vrai, touche aussi ce sport, passion nationale. Nous évoquerons les liens ambigus qui ont toujours existé entre le football et le pouvoir au Congo. Karim Benzema devant un tribunal, peut-être pour bientôt dans l'affaire du chantage à la vidéo visant son coéquipier en équipe de France, Mathieu Valbuena. Est-ce là l'adieu définitif de l'attaquant des Merengues au bleu du maillot donc de l'équipe de France? Eh bien, nous en parlerons avant évidemment de conclure l'émission par nos cartons Radio Foot. Les débats sont ouverts. Chelsea remportera-t-il son 11e match consécutif? En ouverture de la 17e journée de Premier League, les Blues se retrouveront en tout cas face à Crystal Palace et déjà Alan Pardew, l'entraîneur de ce club de Crystal Palace, s'incline devant la puissance de l'adversaire. Le travail d'Antonio Conte est formidable, a-t-il déclaré à la veille de la rencontre. Chelsea largement en tête donc de ce championnat qui compte déjà 6 points devant des poursuivants, notamment Arsenal, qui se déplace dimanche à Manchester. Les Gunners contre City, Arsène Wenger face à Pep Guardiola. Les Citizens patinent un peu ces derniers temps, hein, 2 défaites et 1 nul sur les 3 derniers matchs. Et ils ont perdu Gundogan pour le reste de la saison, blessé au ligament du genou. Pep Guardiola le regrette déjà.
À partir d'aujourd'hui, les joueurs vont se sentir davantage en confiance, j'en suis sûr. Surtout devant, quand Jesus, Agüero et d'autres joueurs vont revenir. Nous allons essayer d'être forts. Je suis heureux de ne pas avoir pris de but contre Watford, mais triste et malheureux de ce qui est arrivé à Gundogan. Il va nous manquer pendant longtemps, et c'est bien évidemment une très mauvaise nouvelle.
Alors, un point sépare les deux équipes qui, toutes les deux, ont besoin d'une victoire pour ne pas lâcher les Blues. Mais Pep réclame du temps pour installer son jeu face à l'inconstance, hein, souvent constatée, d'Arsenal. Que faut-il en penser, Franck?
Je vois comme vous une équipe qui est en net déclin, en net recul, qui est City, hein, et ça a commencé il y a déjà quelques matchs. Une équipe d'Arsenal un peu rajeunie qui a dû baisser pavillon devant Everton il y a quelques jours, ce qui était pas...
Ce qui a fait très plaisir à Franck Simon, qui est un grand supporter des Toffees.
Mais c'est bon, on le sait, cher Xavier. Mais dans tous les cas de figure, vous le disiez, c'est une affiche, ça reste une affiche importante. Il faut surtout pas décrocher. Le risque me paraît plus important pour City que pour Arsenal. Voilà.
Parce qu'ils sont pas sur une dynamique.
Voilà, il y a un problème de dynamique qui est évident. Il faut regonfler tout de suite le moral d'un effectif de joueurs. Et de l'autre côté, ben c'est la même chose, mais sauf que Arsenal est un petit peu plus en avance au niveau des points. Et ça risque d'être un match assez tendu, on va dire.
Xavier réclamait du temps. Bon, c'est pas le cas d'Arsène Wenger, et on voit de genre de manière de procéder, puis de dynamiques différentes.
Oui, mais on va avoir aussi un match avec deux équipes qui ont une philosophie de jeu très proche. Donc oui, pas le genre de philosophie qui plaît à Rémy Nbono. Donc forcément,
Arsène Wenger a toujours été admirateur du FC Barcelone, on le sait, sur le
style.
Oui,
du jeu très léché, d'un jeu offensif, délibérément offensif. Donc deux équipes qui animent, qui offrent de très belles affiches en général en Première Ligue, même si elles ont du mal contre des équipes qui jouent dans un style beaucoup plus britannique. Et là, on va voir vraiment, comme elles n'auront pas en face d'elles des équipes avec des stratèges à la petite semaine, comme José Mourinho ou comme même si ça lui réussit pour le moment, enfin des stratèges plutôt défensifs, je vais dire, comme José
plus
Mourinho.
Plus pragmatique, vous vouliez
comme,
dire.
Voilà, ouais. Ou comme Antonio Conte, on va voir lequel sortira vainqueur de ce face-à-face, parce que moi, c'est un match qui m'excite beaucoup. Ce sont deux équipes qui ont la possession de la balle, qui veulent aller vers l'avant, qui veulent marquer des buts, qui ont effectivement quelques faiblesses défensives. Là, en préparant le 11 d'Europe pour Canal+ Afrique, je remarquais que Pep Guardiola a aligné 18 compositions différentes de défense depuis le début de saison en 26 matchs. 18 compositions différentes de défense. Donc ça veut dire qu'effectivement, il a pour le moment des difficultés à installer son jeu, mais ça s'explique aussi par ses aléas-là. Il a ce souci de préserver ses joueurs pour qu'ils soient performants toute la saison. Lui, contrairement à Antonio Conte à Chelsea ou à Jurgen Klopp à Liverpool, joue aussi la Coupe d'Europe. Eux ne la jouent pas.
La Ligue des Champions, les huitièmes de finale.
Ça s'explique, ces compositions, effectivement.
Il est obligé de faire tourner, c'est son souci, il le dit d'ailleurs. Et dans ces cas-là, on se retrouve avec des contraintes
bien
différentes et effectivement des aléas un peu plus importants.
Quand il dit, surtout quand arriveront, alors le retour de Sergio Aguero encore blessé, mais Gabriel Jesus qui vient donc du championnat brésilien, il va être intégré déjà au moment du...
Aguero est suspendu
Boxing
pour 4
Gay.
Matchs, Fernandinho 3 matchs, donc c'est quand même deux joueurs importants de cette équipe de Manchester City.
C'est bon pour Iheanacho.
Mais Aguero, justement, il est aussi...
Et Iheanacho, malheureusement, n'a pas complètement saisi sa chance. Parce que c'est Nolito qui l'a aligné l'autre jour en pointe. Donc il a toutes ces contraintes à gérer. Effectivement, c'est vrai que l'indiscipline pour laquelle a été sanctionné Aguero, c'est déjà sa deuxième suspension de la saison. Il avait déjà été suspendu
Ça avait profité justement la première fois à Iheanacho, au Nigérian.
Et là, le fait qu'il soit un peu moins bien à Iheanacho, c'est effectivement une déconvenue.
Mais il n'a pas beaucoup de choix. Il n'a pas beaucoup d'options, en fait.
Mais ce Jesus va être déjà intégré?
Ah, mais évidemment.
Là,
évidemment.
Boxing Day et tout ça.
Il en a besoin. La preuve, c'est que l'effectif de Manchester City est insuffisant pour, enfin, le niveau de l'effectif actuel dont il a hérité est insuffisant pour faire face à tous les défis qui se présentent à lui.
Et en plus, Aguero, c'est vrai que souvent, il est absent. Quand c'est pas pour indiscipline, c'est aussi pour blessure. On le sait. Rémi.
Première des choses, je voudrais signaler à tous les auditeurs que vous avez entendu comment est-ce que Xavier Barré dit que Pep Guardiola a hérité d'un effectif insuffisant. Je voudrais rappeler à monsieur Xavier Barré qu'en 2014-2015, Manchester City termine deuxième en encaissant que 35 buts. Donc, on me dit que c'est un effectif impuissant et je voudrais quand même vous dire que c'est ce Manchester City-là qui est arrivé, bien évidemment, en demi-finale de la Ligue des Champions. Effectif insuffisant. Cependant, je voudrais rappeler à monsieur Xavier Barré que en Europe, c'est Pep Guardiola qui a recruté 10 joueurs nouveaux à Manchester City pour un montant de 206 millions d'euros. Et jusqu'à présent, on me dit que c'est insuffisant. Il fallait donc qu'il recrutât ne serait-ce que minimum 60 joueurs pour que l'effectif soit suffisant. Merci, monsieur Xavier Barré. Pour l'instant, attendez. Monsieur Xavier Barré, vous avez été relancé 4 fois, je n'ai rien dit. Mais pour dire aujourd'hui que lorsqu'on essaie de me dire que Pep Guardiola demande du temps, je devrais quand même signaler que celui qu'on appelle Conte, il a hérité d'une équipe brinque-ballante. Et au moment où, c'est-à-dire que le 24 octobre, eh bien, pendant l'Assemblée Générale d'Arsenal, lui qui vante justement Wenger était accueilli, applaudi par les dirigeants parce qu'il était co-leader avec qui? Avec Manchester City, avec 20 points. Et pendant ce temps-là, Chelsea était 11e plutôt. Aujourd'hui, on me dit que Chelsea, qui a aussi eu un nouvel entraîneur, et qui n'a pas recruté comme Manchester City se retrouve aujourd'hui avec
40 points.
Mais c'est pas possible. Alors, monsieur Xavier Barré, vous allez me dire que
c'est possible.
Mais c'est pas possible. Soit pour une fois, dites que tout cela que vous supportez comme Mourinho, je suis désolé, je vais partir à la retraite à RFI sans que ce monsieur ne puisse remporter un championnat en première ligue. C'est terminé.
Fait Guardiola ou Arsène Wenger?
Les deux de toutes les façons, parce que Wenger a remporté il y a très très longtemps.
Alors Rémi, qui va gagner à ce match? C'est ça aussi la question.
Pour ce match
mais
nul.
Il va pas regarder ça.
Match nul, puisque de toutes les façons, une chose est sûre, moi je peux quand même miser encore même sur Arsène Loser. Pour une fois, il va corriger Guardiola.
Non, la vraie question, Rémi, donc c'est quand la retraite à RFI? C'est pour savoir quoi, surtout. Ce que je note, c'est que les deux équipes, mais on en a parlé, il faut dire que la Première Ligue, c'est tellement source de débats et pour nous d'interrogations, on en a parlé, c'est vrai que les deux équipes, depuis fin octobre, la date à laquelle faisait référence Rémi, elles se sont véritablement croisées dans l'ascenseur, je parle de Manchester City et de Chelsea, hein, pour si on compare les deux, parce que c'était le sujet, de Rémi, City a pris 15 points sur 30, pendant que Chelsea en prenait 30 sur 30, donc il y a quand même 15 points d'écart. En ce qui concerne Arsenal, c'était
avec
plus
bémol,
fluent, comme dirait nos amis. Je termine juste, Xavier, pour une fois que je parle. Et donc, Arsenal a perdu deux fois cette saison, c'est-à-dire au tout début, et puis vient de perdre, là, c'était sa deuxième défaite. Arsenal, on a l'habitude de les voir comme ça, assez ronronnant, mais ils ont le mérite d'avoir été dans le trio de tête depuis le début de cette saison, ce qui n'était pas le cas. Manchester City a fait un départ canon avec 7 ou 8 victoires, ça partait très très fort, et puis la machine s'est enrayée, au contraire de Chelsea. Ces deux équipes-là se sont croisées, mais Arsenal est resté assez régulier, on va dire, depuis le début de saison. Après, est-ce que ça voudra dire qu'Arsenal a quelque chose à... Les deux équipes, en tout cas, ont beaucoup à perdre. Celle qui perdra aura un vrai trou. Pour l'instant, il y a 6 points d'écart entre Chelsea et Arsenal. Il y en a 7 entre Chelsea et City. Celle qui va perdre, si Chelsea dans le même temps gagne, alors là, il y aura franchement, ce sera sans retour.
Xavier, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, non, je voulais juste dire qu'il y a un élément important, c'est qu'Arsène Wenger, qui est à Arsenal, on le sait depuis 20 ans, a l'expérience de ces enchaînements que n'a pas Pep Guardiola. C'est-à-dire que Pep Guardiola, on voit bien qu'il tâtonne sur la charge du calendrier. Parce qu'en Allemagne, il n'y a que 18 clubs en Bundesliga, il n'y a pas de Coupe de la Ligue. En Espagne, il n'y a pas de Coupe de la Ligue non plus. On a une trêve à Noël. Donc là, il découvre les contraintes de l'Angleterre. Bien sûr, il est entouré
avec
par
la multiplication des compétitions.
Des matchs. Donc c'est pour ça que peut-être il fait presque peut-être trop tourner pour ne pas épuiser son effectif qui est déjà...
Vous lui cherchez trop d'excuses là. Mais franchement... Non, mais Xavier, toute proportion gardée.
C'est vrai, c'est Rémi Godot,
mais c'est vrai que il a recruté. Il a quand même recruté. Rémi l'a bien expliqué. Il est là depuis quand même combien? 3 mois, 4 mois qu'il travaille. Ouais, il a eu largement le temps.
Il l'a su bien avant.
Donc, je pense que c'est des éléments qu'on peut prédigérer. Effectivement, l'histoire du calendrier est très, très lourd pour un club comme City. Il n'empêche, il avait les moyens de le faire. Après, il y a des circonstances qu'on ne peut pas prévoir qui sont les suspensions et les blessures. Voilà. Ça, c'est des éléments qui sont indépendants de sa propre volonté.
Ça ne vient que d'arriver. C'était pas au début du championnat.
Non, Gundogan, bien sûr, mais voilà. Rémi, par exemple, Gundogan, c'est au ligament du genou.
La
saison est terminée.
Il n'a pas encore des faits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas.
Bien sûr.
Il a perdu.
Bien sûr, mais ça va avoir des effets.
Sur les 15 derniers matchs, il n'a gagné que 4. Alors, Gundogan était là.
Non, mais c'est vrai que surtout, évidemment, Antonio Conte, mais on en parle assez régulièrement maintenant, est impressionnant. Lui qui n'a pas demandé de temps et qui, au bout de 4 matchs, a compris ce qu'il fallait faire en Angleterre. En Italie, eh bien, seulement 4 points séparent le premier du deuxième, la Juventus de la Roma. Et la rencontre de la 17e journée donc de Serie A est une excellente occasion pour les joueurs de la Louve de contester, peut-être enfin, la suprématie des joueurs de la vieille dame. En tout cas, c'est ce que dit Luciano Spalletti, occasion unique.
C'est évident que contre la Juve, nous aurons la chance de jouer pour le titre. Et nous le ferons en sachant que nous avons mérité cette opportunité. Nous voulons concourir jusqu'à la fin. Nous allons faire face à un adversaire gênant, mais il est clair que pour nous, ça représente une possibilité de combler l'écart, une chance presque unique.
Alors une chance presque unique, Xavier, c'est vrai que c'est une chance à ne pas perdre souvent avec la Juve en plus.
C'est un peu un match, oui, à, comme on disait à l'époque, les matchs à 4 points ou à 6 points maintenant, puisqu'il y a quand même un bel écart, il y a 7 points.
Il y aurait 7 points, ouais.
Il y a
4 points pour le moment, oui, il y aurait 7 points. Si la Juve s'imposait, il y aurait 7 points. Pour l'instant, il y a 4 points d'écart.
Voilà, donc c'est vraiment le genre de match, l'opposition directe, qui non seulement peut assurer le titre à la Juventus, mais peut éliminer la Roma de la course au titre. Or la Roma, ça fait tant d'années qu'il court après ce titre. Rudy Garcia, à l'époque, avait eu le malheur de l'annoncer et de ne pas y arriver. Depuis, c'est Luciano Spalletti qui est revenu aux commandes. Donc, un adepte du jeu offensif qui a redonné de la dynamique au...
Oui, d'ailleurs, ils ont des différentiels de buts assez impressionnants. Hein,
Non, ils sont juste 37-35.
Non, mais pas le différentiel. Le nombre de buts, la différence.
Plus 21 et plus 19. Donc, oui, c'est deux équipes qui marquent beaucoup et qui arrivent à
plus
plusieurs.
Plus 21, plus 20.
Oui, mais chacun a marqué quand même 35 buts. Mm-hmm. Oui, ça. Et okay. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on essaie de regarder le potentiel, c'est Zeko qui est quand même le meilleur buteur avec 12 buts. Mm. Et bien sûr, parce qu'aujourd'hui, Higuain a un peu ralenti. Et on essaie aussi de voir que Mohamed Salah, du côté de la Roma, revient très très fort avec 8 buts déjà et sans pour autant oublier. Donc aujourd'hui, quand on essaie de regarder le trio offensif des deux équipes, la Roma n'est pas mauvaise par rapport. C'est vrai que, et puis, la Roma vient de réussir un véritable test en battant quand même l'AC Milan, qui était aussi sur une grande série. Donc, moi, je me dis aujourd'hui, lorsqu'on essaie de regarder la Juve, même si la Juve gagne, la Juve n'a plus la même certitude. Parce que, sachez aujourd'hui
qu'elle a moins bien commencé cette saison, d'ailleurs.
Elle a moins, trois défaites déjà avant.
La saison dernière, elle avait commencé très mal.
Oui, avec trois défaites. Et surtout, il y a 14 buts encaissés. Alors que l'année dernière, le nombre de buts encaissés de la Juve n'atteignait même pas 25. Donc aujourd'hui, s'ils ont pris 14 buts, je me dis aujourd'hui qu'ils sont moins bien que la saison dernière.
Recadrer, c'est vrai que je lisais la très longue dépêche de présentation de Stanislas Touchaud dans l'AFP, qui connaît bien l'Italie pour y avoir vécu, et qui disait que cette Roma de cette saison, elle est moins romantique et plus réaliste. Et c'est vrai que ça se sent. Dzeko en est l'exemple. Les victoires sur la Lazio et sur le Milan AC témoignent aussi de ça. Le petit bémol, même s'il sera là bien sûr dimanche, c'est que ça là, a priori, il sera absent tout le mois de janvier. Ça peut leur coûter quelque chose.
Franck.
Ouais, ça tombe bien que vous en parliez. J'étais avec lui il y a 2 jours. Avec notre ami égyptien, et effectivement, lui...
Il sera à la CAN.
Oui, il sera à la CAN, il est très important dans ce dispositif. Rémi évoquait Edin Dzeko. En fait, le partenariat entre les deux est détonnant, puisque c'est le principal pourvoyeur de passes décisives pour Dzeko, l'égyptien. Et il a effectivement marqué beaucoup de buts. Simplement, et j'ai bien compris en discutant avec lui l'autre jour, c'est vrai que c'est une rencontre importante, pour son club, lui, il est pas certain d'être non plus à 1000% sur ce, on lui demandera d'être juste à 100%, et il est pas certain non plus qu'il débute, et s'il débute, il est pas même certain qu'il aille très très loin dans la rencontre. Il n'empêche, et là, c'est vrai, il est très important dans ce dispositif, parce que, c'est peut-être moins romantique, cette Roma, mais lui, il est important, il a été quand même, rappelons-le, désigné joueur de la saison par l'AS Roma. Il a fait 14 buts, 11 passes décisives. Il arrivait de la Fiorentina après avoir été totalement sinistré du côté de Chelsea. Aujourd'hui, c'est un élément très important. Et moi, j'ai vu la façon dont les gens se comportaient avec lui à Trigoria, au centre d'entraînement. Eh bien, ce Mohamed Salah, on peut être fier de lui en Afrique parce qu'il est vraiment choyé dans ce club, très apprécié. Et je pense pas que Spalletti va vouloir le griller. Et puis, je pense que lui-même ne veut pas se griller, parce qu'il me disait à la fin de l'entretien, il me disait, vous savez, il y a la Coupe d'Afrique dans quelques semaines et je veux briller avec les pharaons. Vous savez qu'il est et pourvoyeur de passes décisives et buteur systématiquement avec les pharaons.
Le vieux revient aussi un peu là, il pourra jouer Totti.
Oui.
Ah oui, avec ses 40
Keiko,
ans.
Keiko Totti,
voilà,
comme on
voilà.
Dit.
Donc il va toujours revenir et puis voilà.
Parfois, il rentre au dernier moment.
Et puis, Nainggolan, on voit aussi que lui-même aussi, il est en train de monter beaucoup en puissance. C'est d'ailleurs lui qui a marqué le dernier but. Donc, c'est une équipe.
Ils ont des solutions.
Qui a des solutions.
Eh ben, en tout cas, ça sera une belle affiche à suivre donc au cours du week-end du côté de l'Italie. On se retrouve juste après la pause pour évoquer aussi le bon rendez-vous en Ligue 1, puisqu'il s'agit d'un Monaco-Lyon. Et puis, on parlera du football ou du non-football d'ailleurs en RDC. À tout de suite.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Retour dans le Café des Sports de Radio Foot International sur RFI avec Rémi Ngono, Xavier Barré, Olivier Pron, Franck Simon. Et nous continuons notre tour d'Europe des matchs qui pourraient vous intéresser au cours du week-end. Nous sommes donc allés en Angleterre avec ce Chelsea-Arsenal. Ensuite, nous sommes passés par l'Italie, ce Juventus-Rome. Et désormais, nous atterrissons sur le Rocher de Monaco. Car en Ligue 1, eh bien, le rendez-vous, ce sera au stade Louis II, ce match qui refermera la 18e journée du championnat français. Deux clubs qui ont 11 points d'écart, mais seulement 2 places de différence au classement. Il s'agit donc de Monaco et de Lyon. Alors, on vous en a beaucoup parlé ici ces derniers temps, les cartons qu'imposent les joueurs monégasques à leurs adversaires. Et du coup, eh bien, Jean-Michel Aulas le reconnaît pour ses Lyonnais. Il y a un peu de peur dans l'air.
Je pense que là, on aura non seulement pas de certitude, mais on va être pétri de trouille, excusez-moi du terme. Et je pense que c'est aussi bien pour les joueurs parce que l'ambition reste intacte et moi je pense qu'on est capable de faire souffrir Monaco. On avait dit la même chose de Paris, on a eu une mi-temps sans et une mi-temps avec, on aurait pu je pense vraiment accrocher Paris, ben, il faudra faire la même chose avec Monaco, en tout cas en ayant la volonté de faire douter aussi ce Monaco qui gagne tout en ce moment et qui joue très très bien, il faut le reconnaître.
C'est Monaco un peu à l'image de...
Il est énorme Jean-Michel Aulas.
Il a bien changé.
Il est quand même monstrueux. Il dit tout et son contraire. Ouais. Parce que expliquez-moi comment on peut être trouillard et ambitieux.
Il est pétri. Il est pétri de trouille. Vous avez
pétri de trouille. Et les joueurs qui ont la trouille, c'est un bon signe. Ah ouais, bah, je l'avais jamais entendu.
C'est le talent.
C'est énorme.
Justement,
c'est ça normalement.
C'est peut-être...
Les fêtes arrivent pour lui, il faut se reposer.
Mais c'est peut-être bien à l'image des résultats de son équipe cette saison. Parce que c'est ce qu'on a vu au cours de ce championnat. Ils ont hyper mal commencé le championnat. Maintenant, ils reviennent. Mais évidemment, ils sont un peu largués. Et en même temps, on les a vus en Ligue des Champions. En Ligue des Champions où ils ont d'abord très très mal commencé pour finalement mourir presque en atteignant la plage.
On est habitué au discours de circonstances de la part de Jean-Michel Aulas.
Mais là, il fait fort.
Là, par exemple, il voulait retrouver la Ligue des Champions. Puis finalement, il se contente de l'Europa League.
Ah oui, mais tu veux la finale.
Il veut aller en finale.
Bon, à Stockholm.
On verra. Peut-être qu'il parlait déjà pour l'année prochaine où la finale aura lieu au Parc OL à Lyon. Bref.
Ça ne réussit pas. Oui,
mais là, l'enjeu de ce match, il est crucial. Vous vous rendez compte, Lyon, vous avez rappelé Annie, Lyon est actuellement à 12 points
de Nice.
Et 11 de Monaco. S'ils perdent, ils se retrouvent, mais complètement dans les choux. Bon, il y a encore une journée avant la trêve, mais ils sont
complètement... Mais il y a de gros groupes, hein, de toute façon.
Ils sont complètement dans les choux. Ça veut dire que Lyon ne sera pas en Ligue des Champions la saison prochaine, sauf s'ils gagnent l'Europa League, mais on peut toujours rêver.
On sait quand même que l'OL, ils ont des super parcours lors des phases retour. C'est vrai que comment aujourd'hui on se dit s'ils perdent ils vont
distancés. Plusieurs saisons qui font ça.
Ouais, ça fait 2-3 saisons quand même qu'ils ont des phases retour très 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 importantes.
Ils avaient 10 points de retard l'année dernière.
Voilà, donc mais clairement c'est peut-être moralement qu'ils peuvent être plombés de ça. Je veux bien le comprendre. Mais moi je les vois bien faire un gros final et puis on peut considérer que c'est les clubs qui sont devant. On va mettre de côté le PSG, mais Nice et Monaco à un moment donné la machine elle va s'enrayer peut-être. Ils vont peut-être laisser filer des points.
Nice oui, notamment parce qu'il y a la CAN peut-être. Monaco, franchement, on voit aucun signe
Olivier,
montre que ça peut s'enrayer.
Même les plus forts ont à un moment donné un petit passage à vide,
un trou d'air.
Non, c'est pas envisageable.
Ils ont quand même une marge. Si les plus forts ont des trous d'air, Monaco aura un trou de tombe. Plutôt Lyon aura un trou de tombe. Parce que quand on essaie de regarder...
D'ailleurs, mais ils ont déjà eu le trou, peut-être.
D'ailleurs oui. Mais même Jean-Michel Aulas a perdu sa langue. Parce que dire quand même qu'on est pétri de trouille, c'est à peu près comme si je disais tout de suite, je suis en train de descendre en bas. Je suis en train de monter en bas. Ce sera compliqué de monter en bas. Voilà. Donc, à une certaine période aujourd'hui.
Rémi, justement, vu ce que dit Jean-Michel Aulas et vu les résultats de Lyon cette année, est-ce que finalement on peut s'attendre à tout à ce match, c'est-à-dire ils se prennent un 6-0 comme aussi ils résistent et ils perdront peut-être que 1-0.
Ce sera difficile parce que je vois que Lyon n'est pas très bien défensivement et j'ai par exemple même vu une équipe comme Tottenham qui a quand même concédé au moins 9 tirs cadrés.
Je peux pas vous laisser dire ça.
Donc attendez, contre Lyon, contre Monaco, Tottenham Tottenham a beaucoup souffert.
Non, je parle pas de Monaco, je vous parle de la défensivement, l'OL, même quand ils ont été ballottés, regardez tout récemment, regardez comment Anthony Lopez, qui est dans une forme exceptionnelle, regardez un joueur qu'on ne connaissait pas il y a quelques semaines, Mukhtar Diakabi, vous nous en avez parlé, je crois, il y a pas longtemps. Moi, je pense qu'ils ont quand même des arguments pour être solides. Ouais. Regardez comment ils ont bien résisté.
Quand même, nous, ne l'oublions pas, Nkoulou qui est sur une deuxième saison calamiteuse, Mapu Yangambiwa, c'est quand même pas non plus, Morel.
Mais si vous êtes pas Olivier, si vous êtes pas motivé pour jouer un match comme ça sur le rocher face à une équipe qui paraît invincible, c'est pas la peine de vous présenter sur le terrain. Je suis pas persuadé qu'ils vont en prendre 4 ou 5. Je pense qu'ils vont
en a pris 7, ils peuvent en avoir.
Mais vous dites bien qu'ils vont jouer sur le rocher. Voilà. On dit bien, et il y a un proverbe africain qui dit que
c'est mieux sur la pelouse.
Voilà. Si tu te permets d'aller mordre de la pierre, attention, tu risques d'avaler les dents.
Ah, oui, voilà. C'est vrai, je pourrais y aller. Je les ai donnés hier. Je rappelle juste, parce qu'on s'en lasse pas. Ce sont quand même des stats énormes.
Oui. Les 76 Olivier commence buts, à les apprendre.
Les 76 buts inscrits en 28 matchs. Déjà, ça parle. Mais c'était quand même ce 7-0, le cinquième gros carton de la saison. On n'en est pas encore à la moitié. Déjà, 5 cartons. Et c'était la 9e fois de la saison, encore une fois, qu'il battait une équipe par plus de 4 buts d'écart. La défense lyonnaise, elle va devoir être sacrément forte quand même. Même le PSG n'avait pas pris 4 buts, mais on avait pris 3 quand même fin août. Oui. C'est-à-dire que ça dure quand même depuis un moment, cette régularité. C'est pour moi vraiment la belle équipe à suivre.
Olivier, est-ce qu'on se donne pas rendez-vous dans quelques jours pour en reparler?
Mais volontiers, mais
je suis pas persuadé qu'ils prennent une rouste.
Je vais vous dire, Franck, que le championnat soit relancé avec un Lyon qui pourrait revenir, que le match soit finalement à 4 et pas à 3. Moi, je fais partie de ceux que le match il est déjà à 3 et ça ne changera plus. Ouais. Mais je ne demande qu'à voilà.
Eh bien voilà, rendez-vous donc dimanche soir dans le stade Louis II. Chaud d'ambiance pour assister à cette rencontre qui, elle,
franchement, restez devant votre télé,
promet d'être chaude. Promet d'être chaude, en tout cas, entre ces deux équipes. Les joueurs et les supporters de foot congolais au pain sec. En cette période de fin d'année, il n'y aura pas de fête au stade ni de match de foot sur les pelouses. En championnat de première division, la compétition est arrêtée depuis le 15 décembre, alors qu'aurait dû par exemple avoir lieu un match entre Océan Pacifique et Don Bosco. Et cet arrêt durera a priori jusqu'au 14 janvier. 43 matchs donc, en tout cas on a calculé jusqu'au 4 janvier, qui ont été suspendus, dont le toujours très chaud et dans tous les sens du terme, Lubumbashi Sport contre TP Mazembe. L'annonce de cette suspension a été faite, c'était avant-hier soir, par le ministre des Sports de la RDC, Denis Kambayi.
Comme vous le savez, je n'avais les jours que j'ai rencontré les amis de la Fédération Congolaise de Football et les amis de la Dinamo. Les jours que je vais continuer à constater un certain nombre.
Alors, on va avoir pitié de vos oreilles, parce que c'est vrai qu'il a fait cette annonce dans un mégaphone, dans un stade, et c'est compliqué. Donc, on va un petit peu décoder, et notamment, Olivier, ce qu'il a avancé comme raison officielle, ce ministre des Sports.
Ouais, bah, il est ministre.
Il a donné quatre raisons. Quatre raisons où, en gros, il rejette toute la responsabilité sur les clubs et la ligne à foot.
Il ne faut surtout pas imaginer que ce puisse être à cause de la politique. Vous pensez bien. Alors, excès de violence dans les stades, non-respect de la clé de répartition des recettes. Ça, c'est bien des termes technico-tactiques. Des dégâts causés dans les différentes installations sportives qui ne sont pas réparées. L'absence de civisme sportif et de la bonne conduite des supporters. Franchement, ça pourrait faire un one-man show, ça, quand même, non?
Absolument, clairement. Ouais. C'est peut-être oublier l'actualité.
On est dans la franche pantalonnade.
Ouais, c'est peut-être oublier l'actualité chaude qui prévaut actuellement dans le pays, en fait.
On n'est pas trop dupe, Franck, c'est ça.
Voilà, on sait très bien
que c'est dû au contexte politique.
C'est le contexte politique qui dicte, en fait, qui dicte cette.
Et ce contexte politique, c'est que suspension. Théoriquement, le mandat du président Joseph Kabila aurait dû se terminer le 19 décembre. Comme il n'a pas organisé d'élection, tout pense à, laisse croire qu'il va continuer.
Et du coup. Ça peut déboucher sur des soucis.
Alors, il y a déjà eu des soucis et des violences. Et là, alors, c'est vrai que dans les stades, il y en a, mais. Alors, dans les stades, et c'est ce que n'aime sans doute aussi pas beaucoup le pouvoir, on va l'entendre, il y a des cris, et il y a des cris pas très sympathiques pour le pouvoir en place.
Kabila,
Alors notamment hein, ce qu'ils disent Franck, c'est Kabila et Bella, c'est-à-dire fais gaffe, ou Kabila mandat est Sili, c'est-à-dire le mandat est terminé.
Oui, parce qu'on rappelle qu'il est au pouvoir depuis 2001, qu'il souhaite prolonger, mais que la Constitution lui interdit. Donc il voudrait faire une réforme constitutionnelle pour avoir le droit de se représenter. Mais pour l'instant, voilà, son mandat arrive à échéance le 20 décembre précisément.
Il n'a.
Bah oui, enfin en Afrique c'est quand même très courant, pardon,
voilà,
de changer
on fait pas
la Constitution pour pouvoir se représenter. On a quand même, on en connaît quelques-uns, n'est-ce pas? Vous êtes Camerounais, me semble-t-il, hein, Rémi.
Bon, donc,
Rémi,
le problème dans tout ça, c'est que Kabila montre au monde entier qu'il n'est pas un chef d'État, mais un chef de gang. Il est hors de question qu'un chef de l'État vous dise qu'il est incapable d'assurer la sécurité pour 40 000 personnes dans un stade de football et qu'il peut diriger un pays de 80 millions de personnes. Si vous ne pouvez pas déjà assurer la sécurité dans un stade, cela veut dire que vous ne pouvez pas assurer la sécurité dans tout le pays, dans la mesure où...
Et donc
où...
il suspend le championnat.
Voilà, parce que s'il suspend le championnat aujourd'hui, encore que c'est ad vitam aeternam, rien ne nous dit que oui. Ça pourrait
bien
commencer,
sûr.
Recommencer. Il faut quand même se dire que jusque-là, c'est M. Kabila qui a voulu récupérer le football pour lui, pour qu'il soit maintenu. Il faut rappeler quand même qu'après le succès des Léopards au Tchad, eh bien, c'est le secrétaire général de son parti qui a dit « Les Léopards offrent le troisième mandat à Kabila. » Et du coup, le peuple s'est levé parce qu'ils ont instrumentalisé le peuple congolais, c'est-à-dire que quelques individus qui ont été monnayés, qui allaient dans les stades pour chanter le « Wumela ». C'est-à-dire que Kabila doit toujours rester. C'est à partir de là que le peuple, lui aussi, s'est dit,
mis à
nous aussi,
autre chose.
Nous mettons le Yebela. Aujourd'hui, ce n'est pas une affaire de stade. C'est même dans la rue. Donc, à une certaine période, est-ce qu'il va aussi suspendre la route comme aujourd'hui il est en train de vouloir suspendre le
Il a déjà suspendu RFI, vous êtes au courant.
Oui, il a suspendu RFI
à Kinshasa pour l'instant.
Il va suspendre les réseaux sociaux le dimanche 18
décembre.
Ça a été
annoncé.
Donc, à une certaine période aujourd'hui, on dit que c'est très très grave ce qui est en train de se passer parce que après cela, il y aura bien sûr ce qu'on va appeler, vous savez très bien, comme Mobutu, le peuple congolais est très très décidé, malheureusement ça va aboutir à une guerre que Kabila voudrait plonger le peuple. Le peuple congolais a été plongé par Mobutu dans une guerre pendant 5 ans avec des millions de morts. Donc, il y a un proverbe africain qui dit que mieux vaut une paix injuste qu'une guerre juste. Donc aujourd'hui, Kabila, lui, veut une guerre injuste.
Franck, en fait, quand vous faites allusion à Mobutu, Rémi, c'est ça aussi. Ça, de toute façon, et pas seulement en Afrique, le football est instrumentalisé, mais en RDC, il l'a toujours été, même depuis les débuts.
Le sport en général.
Le sport en général, et notamment le football, parce que c'est un sport populaire, depuis les colons belges qui l'ont utilisé aussi à des fins politiques.
Les pères belges à l'époque, voilà. On se souvient de la construction de certaines enceintes sportives importantes, hein, le fameux stade qu'on appelle le Tata Raphaël, du père Raphaël de la Quétule, hein, père blanc. Le football a été très très vite effectivement instrumentalisé par Mobutu. On se souvient des années 50-60 quand il bat le rappel de tous les Belgicains, tous ceux qui étaient partis jouer comme Léon Mokouna, etc. Ils sont tous rentrés au pays pour refaire une équipe nationale qui soit capable, qui soit susceptible de donner ce titre national. C'était, vous souvenez, au début des années 60, c'est la période des indépendances. Et c'était très très fort pour eux de remporter ce titre, de montrer qu'ils étaient eux, voilà, les rois de l'Afrique. Ça a continué jusqu'à effectivement à cette année extraordinaire de 74 où ils remportent le titre au Caire contre la Zambie avec une finale qui était rejouée, rappelons-le. Et puis voilà, en Coupe d'Afrique des Nations
et
puis
la Coupe du Monde derrière.
Et c'est justement là où Mobutu, vous allez voir le parallèle ou alors à peu près ce qu'on peut dire la ressemblance avec Kabila, c'est exactement la photocopie parce que c'est là où Mobutu offre au Léopard du Zaïre chacun une voiture avec la maison plus une fonction. Et c'est ce que Kabila a fait après le Tchad, c'est-à-dire qu'il a offert au Léopard les Prado 4x4 exactement comme au Mobutu, sauf que ça s'est retourné aujourd'hui contre lui.
Souvenez-vous aussi quand même qu'en 74, l'équipe nationale des Léopards part en Allemagne de l'Ouest, disputait la finale de la Coupe du Monde, où il s'était qualifié aux dépens du Maroc. Et en fait, à un moment donné... La délégation est un peu envahie de gens qui n'ont rien à y faire. L'argent qui a été promis aux joueurs, aux Léopards, aux très grands joueurs de cette équipe nationale, eh bien, ils le toucheront jamais. Et puis, les joueurs décident de faire grève contre la Yougoslavie. Ils perdent 9-0. Ils encaissent 14 buts, hein. Ils perdent contre le Brésil et contre l'Écosse. 14 buts en 3 matchs. Ils rentrent au pays. Et puis, ils deviennent les parias de cette société qui, quelques mois avant, enfin, de cette société de l'État, finalement, hein, qui les avait fêtés et qui leur avait donné tout ça. Ça, c'était en 74. C'était à l'époque de Mobutu. Et ça a perduré, en fait, hein. Je veux dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de garçons, d'hommes, qui sont partis, qui sont en exil en Belgique, en Allemagne, en France. Des très grands noms du football qui ont eu à souffrir de cette situation.
Et justement, le football congolais est en train de mourir parce que, il faut se le dire, que 85% des joueurs congolais n'ont pas de contrat écrit. Donc, les contrats professionnels. Or là, ils seront suspendus. Ils n'auront pas d'indemnité. Alors que cette génération était déjà hyper belle.
Ils ont gagné le CHAN. Ils sont troisième de la dernière Coupe d'Afrique.
Aujourd'hui, ils étaient très très bien partis pour gagner même la CAN parce que c'est l'une des meilleures formations.
Ils sont toujours bien partis actuellement.
Mais le problème, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, le peuple congolais, puisqu'ils seront traumatisés par ce qui va se passer dans leur propre pays. Ouais. Parce qu'ils ont des racines chez eux. Donc, ils auront toujours. Imaginez si on vous dit que
On se souvient du Mali en 2013.
Votre oncle a été abattu. Puisque aujourd'hui, Kabila, il est en train de commettre des meurtres à ciel ouvert et tout est fermé.
Rémi, on se souvient en 2013 effectivement de ces joueurs maliens qui avaient la tête à ce qui se passait dans leur pays alors qu'il y avait la compétition du côté de l'Afrique du Sud.
De motivation quand même.
Dans l'autre sens.
Voilà,
mais en tout cas, ils y pensaient tout le temps.
C'est un peu différent. Puis alors, en plus, pour la RDC, il y a le coup dur avec Bolasie, donc on peut pas dire qu'ils arrivent à cette CAN.
C'est très compliqué.
Franchement, dans un état d'esprit. Mais bon, on aime bien cette équipe et elle a fait une tellement belle dernière CAN qu'on lui souhaite vraiment le meilleur.
On a peur pour eux parce qu'effectivement, pour synthétiser ce que disait Rémi, forcément, ils auront ça en tête au moment de se préparer au grand événement du Gabon. Et puis ça nous renvoie à d'autres souvenirs douloureux de la Côte d'Ivoire, envoyé au camp de Zambakro par l'ancien chef d'État, le général Gueye, souvenez-vous, etc. Le match suivant, il joue en éliminatoire de la Coupe du Monde, il joue contre le Rwanda au Félicia. Je crois que c'est Bonaventure Kalou qui marque, qui adresse un salut militaire à la tribune présidentielle. Tout ça, ce n'est pas le football, c'est pas ce qu'on aime, c'est pas ce qu'on a envie de voir à la Coupe d'Afrique des Nations. Bref, c'est pas ça le sport.
Bien voilà, et puis sur la RDC, une pensée pour Constant Omari qui a été touché par le deuil de sa femme. Guillaume Ploquin nous
invite.
Chaud.
Alors que Rémi Ngono est en train de nous proposer un striptease, si vous nous
rhabillez-vous, Rémi, rhabillez-vous.
Les caméras tournent, allez vite sur le site.
À la page People, donc, de ce Café des Sports avec George Michael. Mais c'est au tour de l'affaire dite de la sextape, vous le savez, cette affaire qui rebondit, l'affaire Benzema aussi, on l'appelle. Alors qu'on croyait insister à l'annulation aujourd'hui de l'enquête, eh bien non, au contraire, la justice a estimé qu'il y avait lieu continuer cette enquête. Elle a rejeté donc l'appel du footballeur Karim Benzema et il se pourrait qu'il y ait prochainement un procès où on retrouvera Karim Benzema et peut-être même Djibril Cissé qui pourrait être mis en examen. En tout cas, même si son avocat assure que Karim Benzema est innocent, nous on va se poser une question sur le plan sportif. Le buteur des Merengues n'a-t-il pas dit un adieu définitif aux Bleus maintenant avec cette saison, cette décision, alors que ça fait finalement un an qu'il est plus dans les Bleus et qu'on l'a presque oublié.
On rappelle juste. Ça c'est évidemment, ça tombe toujours mal, mais il aura 29 ans lundi. Ça permet en même temps de, au-delà de
celui qui a un
anniversaire qui va être moyen, encore que s'il gagne dimanche le mondial des clubs, c'est ce qu'il retiendra. Mais vraiment, la période est pas terrible. Mais à 29 ans, il a encore quelques années devant lui pour espérer revenir en bleu aussi.
Oui, il a encore quelques années. Le seul problème, c'est que la justice française prend des décisions en général, c'est en termes d'années les procédures. Donc effectivement, ses avocats espéraient qu'il soit blanchi dans cette affaire, puisque la procédure serait déclarée illégale. C'est pas le cas. La procédure va donc continuer. Donc elle risque d'être longue, d'autant plus qu'on parle maintenant que de Djibril Cissé qui pourrait être à son tour mis en examen dans cette affaire. Alors jusqu'à présent, il avait été entendu que comme témoin. Donc du coup, la procédure peut se complexifier, peut être plus compliqué.
Non, mais sur le plan des Bleus, qu'est-ce que vous pensez? Ça fait un an qu'il n'y est plus, là.
Oui, bien sûr qu'il n'y est plus.
Et les Bleus ont un prévu sans
vois
lui.
Pas, je ne vois pas, alors que la situation judiciaire n'évolue pas, je ne vois pas comment il reviendrait. D'autant plus que d'un point de vue sportif, les Bleus sont très bien passés de lui lors du dernier Euro dont ils ont atteint la finale.
Oui, mais ça ne stagne pas sur le plan judiciaire puisqu'ils continuent leur travail quand même.
Ça peut être très long. Et il a bien fait de dire, Xavier, si Djibril Cissé est à son tour mis en examen, ça ne va pas accélérer le processus. Hein, il va falloir faire une enquête. En ce qui concerne l'équipe de France, quand vous écoutez Didier Deschamps récemment dire « Aujourd'hui, il y a des joueurs qui répondent à mes attentes et un équilibre dans cette équipe et je suis vigilant à cet équilibre-là », ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est pas un très
la
bon signe.
La porte est fermée, mais on le sait depuis. Ouais. On le sait depuis, la porte elle lui a été fermée. On compte pas sur lui alors que ses statistiques, que ce soit des passes décisives ou des buts avec son club, elles sont là pour attester qu'il est en pleine forme, en pleine possession de ses moyens. Le football français, les gens qui tirent les ficelles de l'équipe nationale ne veulent plus de lui, et tant que certaines personnes sont là, et vous citiez le sélectionneur national, il sera pas réintégré. Alors,
mais c'est normal qu'il veille à l'équilibre.
Je dis pas le contraire. Je vous dis juste,
c'est pas un gage d'assurance d'équilibre.
Non, certainement, mais je vous dis juste que, à côté de ça, sportivement, dans son club, il fait le travail. Est-ce que vous pouvez contester simplement qu'il fasse pas son travail et qu'il le fasse pas bien?
Non, mais il y en a eu d'autres avant lui qui faisaient le travail et qui n'ont pas été en équipe de France, qui n'a pas empêché l'équipe de France de gagner.
Ça va profiter à son club, tout simplement. Ouais. Tant pis pour la France.
Surtout Rémi, peut-être, qui a eu quand même l'Euro et qui a eu une finale jouée par une équipe de France qui n'avait pas Benzema.
Justement, et on a vu toute l'incapacité à la France à pouvoir faire quelque chose.
On les a même vu battre l'Allemagne sans Benzema.
Oui, on a vu, oui.
Ce qui n'était pas le cas à la Coupe du Monde.
Battre l'Allemagne qui avait un demi-pied, il faut se le dire aussi. Mais si Benzema aurait été là, ça aurait été un vrai potentiel, un vrai plus. Et on a vu...
En 2014, il a raté.
Ce qu'on retiendra, c'est que la France n'a pas pu battre le Portugal avec un demi-pied.
Ça, on n'oublie
donc
pas.
C'est ce qu'on va se le dire. Donc aujourd'hui, Benzema, quoi qu'on dise, c'est l'un des meilleurs attaquants du monde et que la France s'en prive alors qu'il n'était pas déjà. Il n'était pas déjà même.
Vous ne serez jamais populaire si vous dites que comment il faut Benzema. Malheureusement, en France aujourd'hui, vous le savez bien, c'est comme ça. Voilà, on veut plus de Benzema. C'est clairement.
Il a quand même fait beaucoup pour qu'on ne veuille plus de lui aussi.
Il a fait beaucoup.
Mais je vous dis, il est quand même appris au milieu du Football League que lui payait ses impôts en France. Alors ça peut peut-être être important pour une certaine partie
pas,
de l'opinion.
Olivier, j'oublie pas effectivement ce que vous disiez, c'est-à-dire les mauvaises raisons qui fait qu'on ne veuille plus de lui. Mais à côté ça, moi, on parlait de sportif à l'instant. Enfin, c'est pas ce que vous disiez, Annie. Sportivement, il y a rien à dire. Voilà, sauf que voilà, certaines personnes ne veulent plus de lui. Donc aujourd'hui, on sera impopulaire, Rémi, si on dit que ce garçon, il a des qualités pour jouer en équipe de France, on veut plus de lui parce qu'il y a des Griezmann, parce qu'il y a des Giroud, parce qu'il y a eu des Gignac, c'est plus le cas, et d'autres derrière qui frappent à la porte.
Le rôle d'un sélectionneur, justement, j'en parlais il y a quelque temps avec Wenger, qui me disait quand t'es sélectionneur, c'est simple. Soit tu prends les meilleurs et t'essayes de les faire jouer ensemble.
Avec Wenger.
Rémi, vous avez entendu. Soit tu prends une philosophie de jeu et t'essayes de trouver les joueurs qui peuvent rentrer dans ce système. Ben, je pense que Deschamps, il est dans cette logique-là. Il a construit un groupe, il a construit une équipe,
il a
joué.
Xavier, joué au football.
Il y en a certains qu'il a écartés.
Plusieurs systèmes, plusieurs tactiques.
Il a écarté Nasri aussi. Ben Arfa, il a essayé de le mettre.
Il y en a qui sont auto-éliminés aussi.
Il y en a qui sont auto-éliminés. Aujourd'hui, l'équipe de France fonctionne très bien sans Benzema. Il y a d'autres sélections dans le monde qui fonctionnent très bien sans leurs meilleurs joueurs.
Il se prive de, je pense, d'autres options, d'autres systèmes. Il a raison. Qu'il continue comme ça. On a vu les limites de ce système. Ils n'ont pas gagné l'Euro, effectivement, contre le.
Allez, hop, carton rouge à Benzema.
Non, on a des chances si on suit Franck Simon.
Allez, très bonne transition. On part vers les cartes.
Carton jaune.
Il y a un carton là. Qui sort un carton jaune.
Ouh là 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 là, carton rouge.
Carton rouge.
Dans la confusion.
Carton vert.
Extraordinaire.
Rien à dire.
Rémi Ngono. À vous la priorité. Pas trop long, hein, parce qu'on
carton
est...
Carton rouge décerné par Serge Scott à Monsieur Alphonse Ngoyi Kassanji. Vous ne connaissez pas ce nom,
non.
Mais ce monsieur est entré dans le sport par effraction parce que lui, aujourd'hui, c'est un gouverneur au Congo qui intervient donc en RDC, qui interdit aux Congolais d'aller suivre le championnat européen la nuit dans des salles de ciné. Donc pratiquement ce régime est décidé à pousser le peuple congolais à bout jusqu'à la guerre. Mais il faut dire à tous ces gouverneurs, à tout ce monde, ce proverbe africain qui dit que quand on sème les épines, il faut y aller avec des bottes.
Peut-être qu'ils écouteront la radio. Xavier.
Oui, mais je vais répondre à Ibrahim Albacha qui, oui, je suis à tous les matchs au Parc des Princes et j'y étais dimanche dernier et j'ai vu une très bonne équipe de Nice à laquelle j'adresse un carton vert. Parce qu'en général, les équipes qui viennent jouer au Parc contre le PSG et se mettent derrière, ils verrouillent, ils essayent même pas d'attaquer, ils essayent même pas de frapper au but comme l'avait fait l'OM de Rudy Garcia. Zéro frappe, zéro frappe sur le but adverse. Et ben, Nice, ils jouent, ils ressortent le ballon proprement et ils ont été récompensés par un résultat nul. Bravo à monsieur
Favre. Ils ont fait trois frappes au but de tout le match. On peut pas dire que ce soit non plus énorme.
Non, mais ils ont bien joué, ils ont marqué des buts.
Bah, ils ont eu un maximum de réussite aussi.
On peut voir Franck.
Carton rouge aux autorités du Nigeria qui ont laissé tomber les Super Falcons, championnes d'Afrique. Voilà, qui attendent toujours leur prime.
À l'hôtel,
qui ont manifesté devant le Parlement. Voilà, donc la honte. À cause de ses dirigeants et des jeunes femmes qui ont quand même offert le 8e titre féminin au Nigeria. C'est l'équipe la plus titrée. L'équipe la plus titrée du football africain, l'équipe nigériane. Eh bien, malheureusement, on leur donne pas ce qu'on leur doit. C'est honteux.
Alors que les Camerounaises ont tellement pleuré que ce titre leur échappe, n'est-ce pas? Elles en auraient rêvé et
elles ont fait une super compétition.
Justement, les pauvres joueuses du Nigeria. Olivier ?
Alors moi j'ai l'esprit de Noël, hein, on est à une semaine, je vais donc donner un carton vert, ça n'arrive pas si souvent. Et puis j'ai envie aussi de faire plaisir à Franck Simon, j'ai senti une tension entre nous ces dernières minutes, donc je mets un carton vert à un jeune homme qui s'appelle David Oberhauser. Vous le connaissez, Annie ?
Non.
Il est le gardien numéro 2 du FC Metz. Il a 27 ans, il joue pas beaucoup de matchs, mais il en a joué un quand même sacré mercredi pour éliminer Toulouse en 8e de finale de la Coupe de la Ligue. On est arrivé à 10 pénaltys de chaque côté, 10 tirs au but, puis les gardiens ont donc été obligés de s'y coller. Et ben lui, il a arrêté celui de Goikoetxea et derrière, il a marqué le sien.
Il a fait une Copa Barry.
À David Oberhauser qui est né à Beach, ça ne s'invente pas.
Super pour lui.
Et Radio Foot met un carton rouge et bien rouge à Georges Mendes et à son plus grand joueur Cristiano Ronaldo, à Mino Raiola et à Paul Pogba, son poulain, et vous le savez pourquoi, parce qu'ils sont pris dans les scandales de Football Leaks et alors qu'ils gagnent quand même des millions, tous ces hommes, eh bien ils préfèrent constituer des sociétés écrans et ne pas payer leurs impôts. Cristiano Ronaldo, on en parle souvent ici, il aime donner à certaines associations, à son île natale, mais il a évité de payer 30 millions d'euros au fisc espagnol. Ouais. C'est la fin de ce Radio Foot et ce Café des Sports. Merci à tous, merci aussi à Guillaume Ploquin et à David Finzel. L'atelier des